Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
Réseau à la Une.
Réseau à la Une, le podcast. Analyse,
décryptage
et diagnostic des enseignes.
Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast pour un nouvel épisode de Réseau à la Une, le podcast qui débriefe le diagnostic des enseignes en franchise. Je suis Valentine Puot, journaliste à l'officiel de la franchise et suis épaulée par Sylvain Bartholomeu du cabinet Franchise Management.
Réseau à la Une.
Réseau à la Une. Le podcast.
Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous.
Bonjour Valentine.
Alors chaque mois, vous nous aidez à passer au crible le DIP d'une enseigne dans notre magazine, Réseau qui accepte bien évidemment de nous et de vous confier l'ensemble de ces documents juridiques. Vous nous communiquez alors un indice de performance du réseau, un indice qui a été créé pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur et la clarté ou non des informations qui figurent dans ces documents à l'égard du candidat qui lit notre magazine. Alors, à chaque fois, 50 points de contrôle qui concernent la partie juridique que nous détaillons dans ce fameux dossier de notre mensuel dans 6 pages. Alors, avec nous aujourd'hui pour cet épisode, Jean-Pierre Gumez, responsable modèle franchise chez Noroto France. Bonjour Jean-Pierre, merci d'être avec nous.
Bonjour Valentine.
Alors, on débriefe tout de suite sur votre DIP, à savoir que, pour rappel, la rédaction vous avait interrogé en décembre dernier pour ce dossier. Sylvain, de votre côté, quels sont aujourd'hui les atouts du réseau que vous avez pu noter et quelle est bien sûr la notation qui lui a été accordée?
Alors, pour la notation, on a une moyenne donc sur la partie juridique, parce que le diagnostic performance réseau permet d'évaluer les 8 composantes clés du métier de franchiseur, mais là, on n'évalue que la partie juridique. Donc DIP et contrat, et donc la note moyenne qui ressort est de 64%, 52% sur le DIP et 76% sur le contrat. Étant entendu que les principaux atouts sur les deux documents sont la conformité juridique, on a des documents qui sont aux normes en vigueur et qui sont conformes à la réglementation, donc sur le plan de la légalité, de la conformité, on n'a absolument aucun souci majeur.
D'accord. Alors, en décembre dernier, dans cette analyse, vous aviez mentionné que malgré cette plutôt bonne note, il manquait quelques informations du côté franchiseur, à savoir par exemple un DIP qui ne présente pas tous les facteurs clés du concept, alors qu'il a tout de même un certain historique. Je crois d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a à peu près 140 centres automobiles et 280 succursales, en tout cas à date où on avait fait ce dossier, fin 2022, ni le niveau précis des investissements, ni des performances, ce qui peut potentiellement inquiéter des candidats en recherche d'informations avant d'adhérer à cette enseigne, et qu'il y a aussi d'autres informations qui mériteraient d'être clarifiées à leur égard, voire d'être simplifiées avec peut-être plus de pédagogie. Sylvain, est-ce que vous pourriez un petit peu nous détailler votre analyse, nous expliquer ce que vous avez essayé de dire par là?
Oui, tout à fait. En fait, encore une fois, sur le plan de la conformité à la loi Dubin et au décret d'application, il n'y a absolument aucun souci sur le DIP. Les soucis sont plus sur le sens, la compréhension en fait des éléments et puis des informations supplémentaires pour que le candidat puisse vraiment prendre la mesure de son projet. Il faut se rappeler, c'est que la loi Dubin demande en fait aux franchiseurs de permettre aux candidats de s'engager en toute connaissance de cause et fixe par décret un certain nombre d'informations qui doivent être présentes dans le DIP. Pour autant, quand on est une marque notoire avec une réputation qu'on ne refait pas comme Noroto et une histoire très qualitative, on peut se permettre en fait d'expliquer aux candidats et de montrer aux candidats ce qu'on a en plus. D'autre part, on est sur des marchés qui sont quand même comme la plupart des marchés en contexte agité économiquement, qui demandent en fait d'apporter des précisions sur l'état général, les perspectives de marché. Et là, encore une fois, bon, Noroto peut se le permettre parce que connaît parfaitement son marché à plusieurs centaines d'unités. Donc, peut en fait permettre aux candidats de prendre de la mesure, prendre de la hauteur pour pouvoir s'engager en connaissance de cause. Donc, il y a trois points en fait qu'on a relevés dans le DIP, qui sont l'état général de marché, les facteurs clés de succès du concept, et puis tout ce qui est un peu économique, lié aux investissements initiaux, aux performances constatées, où ça mériterait en fait d'être retravaillé, intégré dans le DIP pour permettre à un candidat, il ne faut pas oublier que le DIP, c'est le dernier élément qu'il reçoit et qui lance en fait sa phase de réflexion et qui doit être en fait la transition entre j'ai candidaté et ensuite je réalise mon étude de marché et mon prévisionnel et je m'engage ou non. Donc cette phase-là, elle est quand même très importante. Les enseignes montent en gamme sur les DIP pour convaincre les candidats et leur permettre de mieux s'adhérer en connaissance de cause. Et là, Noroto, qui est une marque notoire, je pense, pourrait faire mieux. Je me suis permis d'aller voir leur site internet en amont de cet enregistrement. Et quand je vois le site internet franchise, qui est extrêmement bien fait, avec notamment une rubrique Démontons les préjugés, qui est extrêmement pertinente, je pense que le lien entre la phase de sélection, de présentation du projet, et la phase, à un moment donné, d'information précontractuelle au niveau du DIP mériterait d'être uniformisée, quoi. Donc, on a un document qui est conforme légal, qui est un peu austère, on va dire les choses comme elles sont, et qui pourrait mériter d'être plus utile pour les candidats, plus marquant et plus dans l'esprit de engagez-vous en connaissance de cause. Voilà.
Alors, Jean-Pierre, je vous propose de réagir.
Bah, en fait, si vous voulez, c'est vrai qu'on s'est attaché surtout à l'aspect réglementaire du DIP, c'est-à-dire ce que vous avez observé, ce que vous avez analysé. Je dirais que c'est le document qu'on fait signer aux candidats. Mais dans notre parcours, nos candidats à la franchise, on commence à les accompagner entre 1 an et 2 ans avant leur projet. C'est-à-dire lorsque c'est une reprise de site, c'est plutôt 1 an avant le projet. Lorsque c'est une ouverture, c'est 18 à 24 mois. Et donc, on va démarrer avec eux un processus de connaissance. On va apprendre à se connaître, on va se présenter, on va s'auto-valider, c'est-à-dire eux vont adhérer à nos valeurs et nous, on va adhérer aux candidats. Et on va les accompagner de bout en bout. C'est-à-dire qu'au moment où le franchisé ou le candidat va signer le DIP, je dirais qu'on a déjà beaucoup de choses qui ont été engagées. C'est-à-dire que le candidat a déjà visité le site, il a déjà reçu des devis, on lui a présenté le marché, il est venu nous voir, on lui a fait une réunion de pédagogie autour du contrat de franchise. Et je dirais qu'au moment où il va signer le DIP, c'est une sorte de formalité. Alors après, sur le diagnostic de cette formalité qui fait à peu près 400 pages, on a voulu, si vous voulez, respecter l'aspect juridique des choses, c'est-à-dire vraiment donner le maximum d'informations. Donc on donne la liste complète des magasins, mais on en a 400, donc évidemment, 400, ça fait pas mal de pages. On a donné le marché complet de l'automobile, donc l'étude locale de marché, l'étude nationale, et on met une multitude d'informations, puisque le marché de l'automobile, c'est quand même un gros marché avec beaucoup d'informations. Donc effectivement, il faut comprendre que la formalité de signature du DIP, finalement, elle arrive dans notre parcours à un moment où le projet était bien engagé, où le candidat a eu connaissance des bilans de l'entreprise cédée, si c'est une reprise, si c'est une ouverture, on lui a communiqué les ratios de l'entièreté du réseau. Donc, il est déjà bien avancé dans son processus quand il va signer le DIP. Et donc, la formalité, effectivement, elle peut paraître un petit peu contraignante et fastidieuse. Alors, on en a pris bonne note et évidemment, on va s'empresser d'y retravailler pour rendre le DIP un peu plus pédagogique et en tout cas plus présentable. Mais il faut savoir que le document, il est signé sur un outil dématérialisé qui est DocuSign et qu'évidemment, le candidat, on ne lâche pas comme ça dans la signature de son document. On va, avec beaucoup de pédagogie, lui expliquer l'entièreté de tout ce qui se passe dans un groupe. Bon, on est dans le groupe Mobivia, on a 2000 points de vente, donc on a beaucoup de choses à lui expliquer. Et ce n'est pas par la simple connaissance d'un DIP qu'on lit qu'on peut comprendre et notre marché, et notre entreprise, et notre concept de franchise. Donc, si vous voulez bien comprendre que là, on a examiné la formalité administrative du DIP, qui est pour nous dans le parcours uniquement une toute petite partie, mais évidemment, on a bien entendu, et c'est vrai qu'on peut progresser dans la présentation du DIP, c'est vrai qu'on pourrait y mettre un sommaire, aérer un peu plus, et on va y travailler, bien entendu.
Alors, je rebondis aussi sur un point avant de passer à la question suivante. Sylvain, vous aviez aussi mentionné l'idée que l'enseigne pourrait faire un peu plus preuve de storytelling. Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, rappeler quelques éléments de son histoire ou qui ont fait son succès, par exemple?
Oui, parce qu'en fait, c'est ce qui vient d'être dit, c'est qu'en fait, il y a un parcours extrêmement exigeant, engageant, qui prend du temps, qui permet aux candidats de bien comprendre le projet. Et c'est vrai que bah, le DIP, c'est un peu la synthèse de tout ça. Donc, quand la synthèse, elle est un peu plate, pas facile à lire, c'est un peu dommage. Donc, on peut en fait le rendre un peu plus. Et je pense aussi à la facilité de lecture, en fait, pour le candidat. Hein. Quand vous disiez un sommaire, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est plus simple. Ça ne veut pas dire qu'il est compliqué. Hein. Il est assez compréhensible, bien structuré. Mais c'est vrai que cet aspect asseoir en fait sa légitimité. On est un acteur majeur. On ne fait pas de fausses promesses quand on dit qu'on est un acteur majeur en fait. On ne fait juste que dire la vérité du marché. Donc la notoriété, les prix qui ont pu être reçus, les réussites de franchisés, etc. C'est quand même important de le mettre en avant. Donc voilà. Donc c'est vrai que ce document-là peut être mieux marketé. Souvent, on hésite à le marketer parce que déjà, du point de vue juridique, ça peut être considéré comme un gros mot, le fait de marketer un document. Mais c'est de le rendre facile à lire et puis plus aligné avec toute cette phase précontractuelle qu'on réalise. Ça doit être un peu le temps de synthèse, en fait. Et ce temps de synthèse, il peut aussi rappeler les étapes précédentes et puis il doit faire le lien. C'est dommage, c'est comme les bons films. On déteste tous les bons films où la fin est un peu décevante. Donc c'est bien qu'on ait un super film avec une super fin. Et encore une fois, Noroto a largement les moyens de le faire. Il y avait un petit détail aussi dans le DIP que j'ai relevé sur le Covid en introduction. Je pense que ça mériterait d'être actualisé parce que sur cette partie-là, les choses ont un peu évolué. Voilà, c'était vraiment un petit point de détail.
D'accord. Alors Sylvain, vous avez aussi souligné que Noroto affichait peu de nouvelles ouvertures. De votre côté, vous Jean-Pierre, comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que l'enseigne préfère entretenir son parc plutôt que de tabler sur des nouvelles ouvertures, concentrer son énergie là-dessus? Est-ce que ça veut dire que vous avez aussi potentiellement des candidats qui partent à la retraite ou qui sont aujourd'hui multisites et qui pourraient expliquer ce taux de reprise en interne plutôt que le recrutement de nouveaux partenaires de l'enseigne? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet?
Ben, le nombre de centres auto en France est assez stable, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans, il y a entre 1200 et 1300 unités autour de cinq marques. Donc, pour rappel, le centre auto, c'est le concept d'un atelier associé à côté à un magasin qui comporte entre 6 et 10 000 références avec de la vente emportée et du montage. Et en fait, dans ce métier, finalement, le nombre d'acteurs, il est assez réduit. On a 5 ou 6 acteurs et le nombre de centres est assez stable. Donc, il faut pouvoir, pour s'installer, avoir une typologie d'emplacement qui fait que le nombre d'emplacements est limité. Les places sont déjà occupées pour la plupart des endroits. Et donc, nous, on n'a absolument pas une ambition de développement pour ouvrir. C'est-à-dire, notre volonté, c'est vraiment de mettre nos centres auto en réussite. On est très vigilant sur la cannibalisation. Et aujourd'hui, on étudie soigneusement nos projets de manière à n'ouvrir que quand on est certain qu'il y a un marché. On n'enverra pas, par exemple, un franchisé se frotter à 3 ou 4 concurrents si le marché est déjà complètement pris sur une ville moyenne. On a 410 centres sur la métropole et sur les dom-toms. Donc, si vous voulez, vous avez des Noroto un peu dans toutes les grandes villes. Il reste quelques zones qu'on pourrait couvrir, mais on est déjà globalement bien implanté. Donc, on aura encore des ouvertures. On en fait entre 4 et 6 par an. Ça peut être des créations sur des nouveaux centres commerciaux. C'est
D'accord.
parfois des conversions de concurrents. On peut encore trouver des bâtiments de temps en temps à transformer en centre auto, mais le nombre d'emplacements est quand même relativement réduit. C'est plutôt 4 à 6 ouvertures, 4 à 6 projets par an.
D'accord.
Par contre, après, bon, avec 140 centres, il est évident que la moyenne d'exploitation d'un contrat de franchise chez nous, c'est environ 15 ans. Donc, on a des franchisés qui arrivent à la soixantaine ou un peu plus et qui décident de passer la main, de vendre. Et on a une dizaine de centres qui sont à vendre à peu près chaque année. Et donc là, on doit également trouver des repreneurs. Ce qui fait que nous, en termes de recrutement de franchisés, on a environ 12 à 15 projets à mener par an. Et effectivement, comme vous le soulignez tout à l'heure, Valentine, on a aussi beaucoup de franchisés qui souhaitent ouvrir un second ou un troisième magasin, donc devenir multisite. Bon, là, on a évidemment des critères, la proximité, la
D'accord.
capacité à déléguer, la possibilité financière de le faire. Mais si le lieu s'y prête, c'est-à-dire si la possibilité d'avoir un second centre pas trop loin du premier, que ce soit en ouverture ou en reprise, on va aussi avoir ce type de projet. Donc aujourd'hui, clairement, c'est une douzaine de projets par an à peu près à mener avec des candidats et c'est à peu près 4 à 6 ouvertures. Mais globalement, effectivement, on n'a pas un développement énorme de notre réseau et je ne pense pas que dans les années prochaines, sur le modèle du centre auto, on pourra ouvrir énormément de centres auto. On reste sur un gros marché puisque le marché de l'aftermarket automobile est 33 milliards, donc il y a un gros gâteau à se partager. Il y a déjà pas mal d'acteurs, il y a évidemment les centres auto, les spécialistes, les MRA, les concessionnaires. Mais disons, dans ce marché qui est déjà bien implanté, bien établi, on va avoir de profondes mutations autour de la mobilité, autour de l'électrification des véhicules. Et on est en train de travailler surtout à rénover au maximum nos magasins, notre concept, et à emmener nos franchisés et nos succursales vers les nouveaux marchés, les marchés qui sont liés à la mobilité, qui sont liés à la location, qui sont liés à la possibilité pour l'automobiliste de se déplacer, et puis surtout de travailler sur des logiques d'aller vers le zéro carbone. Et donc on est vraiment occupé à investir dans tous ces domaines-là. C'est d'abord ce qu'on privilégie.
Alors, une dernière question avant de passer à la dernière partie de cet échange, plutôt sur les conseils et les pistes d'avenir. Vous parliez de mutation du secteur. Est-ce que ça veut potentiellement aussi dire qu'il y a de potentiels candidats plus jeunes sur le terrain qui s'intéressent aussi à ce marché et à votre enseigne, qui sont par exemple des fils de franchisés existants à qui on va déléguer le magasin pour ces reprises de magasins existants, par exemple, au sein du réseau?
Alors ça peut arriver, effectivement, on a quand même 50% de nos franchisés qui travaillent en famille, donc c'est parfois père-fils, mère-fille, mère-fils, ou aussi parfois des couples, beaucoup de couples qui travaillent ensemble, donc ça peut être une possibilité pour certains franchisés de mettre en piste leur enfant sur un centre auto. Cela dit, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous voulez, on est sur un niveau d'investissement qui est assez conséquent, puisqu'on est sur un investissement de 600 000 euros,
D'accord.
entre 5 et 600 000 euros, et donc ça nécessite tout de même d'avoir un apport de 100 à 150 000 euros. Et en fait, les banques aiment aussi avoir des porteurs de projets qui ont une certaine expérience. Donc on a des jeunes franchisés, on a quelques jeunes franchisés entre 20 et 30 ans, mais la moyenne d'âge, elle se situe plutôt aux environs de la quarantaine.
Alors Sylvain, ce dossier a aussi évidemment pour objectif d'aider les enseignes à améliorer la lisibilité de leur documentation à l'avenir. Quels conseils, quelles remarques vous aimeriez transmettre aujourd'hui à l'enseigne, soit sur son DIP, soit sur le contrat en général, ou tout simplement pour conclure cet échange?
Alors, comme on a vu les principaux éléments sur le DIP, notamment l'aspect, on va dire, facilité de lecture, simplicité de lecture. Je pense notamment, on a vu les deux profils, hein, qui ont bien été évoqués de création, mais plutôt de reprise. Donc, ces sujets-là de reprise, ils peuvent être un peu mieux mis en avant et valorisés. Après, on a vu aussi le gros point fort, qui est le point fort de la conformité légale, qu'on retrouve aussi dans le contrat, hein, parce que le contrat est évalué à 76%, ce qui est une excellente note. Et ce qu'on a particulièrement apprécié, c'est qu'on a un contrat qui est simple, clair et qui est équilibré. Donc, il faut se dire, en fait, moi, si je retiens plusieurs éléments, c'est que ces documents-là sont le reflet du sérieux, d'une enseigne sérieuse. On le ressent très clairement. Mais on pourrait mettre un peu plus de côté sympathique et de facilité de compréhension et de lecture pour les candidats. Donc, s'il y a un point d'amélioration, il est vraiment sur cette facilité à lire, parce que c'est des projets qui sont assez complexes, hein. Ça a bien été dit, avec des investissements importants. Il y a le contrat de franchise, mais il y a d'autres contrats qui sont assignés également. Et puis, il y a des enjeux, en fait, dans ce métier-là, dans les années à venir, qui sont essentiels à percevoir et à comprendre au départ et avant même de s'engager. Donc, je pense qu'on peut mettre un peu plus de sens, de perspective dans l'intérêt des candidats qui vont s'engager avec nous. Et pour le reste, on a des documents qui sont sérieux, quoi, et qui sont le reflet d'une enseigne sérieuse.
D'accord. Alors, Jean-Pierre, est-ce que vous souhaiteriez apporter un dernier élément de réponse, réagir? Quel serait un petit peu le mot de la fin? Et puis d'ailleurs, pour conclure, est-ce qu'il y a eu des évolutions conséquentes sur lesquelles vous aimeriez communiquer depuis notre dernière publication, histoire de faire une petite mise à jour sur votre réseau?
Eh bien, concernant le contrat de franchise, merci pour d'avoir relevé que le contrat est assez complet. En fait, le contrat a été réécrit en 2021 pour tenir compte de toutes les nouveautés qui ont pu survenir récemment dans le métier de l'automobile. Donc, évidemment, on est maintenant des acteurs de la mobilité. On évolue dans le microcosme Mobivia, dans un environnement d'entreprise où on essaie de trouver des solutions pour l'automobiliste. On prépare l'arrivée du véhicule électrique. On prépare également la possibilité d'aller vers le zéro carbone. Et en fait, tout ça, on a essayé de le traduire dans le contrat de franchise. Alors, effectivement, peut-être que le DIP, il a été un peu laissé pour compte et vu sous un angle plutôt juridique. Donc, probablement qu'en termes de pédagogie, on peut l'améliorer, mais tout en sachant que la vraie pédagogie, ça n'est pas l'envoi et la signature d'un document, mais bien l'accompagnement qu'on fait du candidat. Et c'est là-dessus qu'on reste en général mis en avant, c'est-à-dire Noroto est considéré vraiment comme une entreprise qui accompagne au mieux ses candidats à la franchise, à la fois en amont et pendant leur projet. Voilà, donc en fait, après nous, les travaux sur lesquels on est aujourd'hui sur le réseau vraiment engagé, c'est avec nos franchisés d'arriver à moderniser nos magasins, à leur donner la possibilité d'accueillir leurs clients en mobilité, c'est-à-dire à la fois de différentes façons. On est capable aujourd'hui d'accueillir un client sur un parking avec un smartphone qui reconnaît sa voiture et tous les besoins des pièces techniques de sa voiture. Le client peut aussi commander sur le web, finir son parcours en magasin. Donc on travaille sur tous ces aspects pour moderniser nos magasins, pour leur permettre bientôt au travers de nos plateformes. Ils le font déjà de pouvoir entretenir un véhicule électrique, de préparer les
D'accord.
marchés de demain, et puis évidemment d'enrichir le concept avec les nouveaux outils qu'on développe aujourd'hui autour de la location, autour de toutes les mécaniques d'abonnement, la vente de services, et puis évidemment toute la nouvelle technologie en atelier autour du véhicule électrique ou de l'éco-performance et tout ce qui va amener le client demain à fréquenter les centres Noroto.
D'accord. Eh bien, écoutez, merci. C'était le mot de la fin. Merci à tous les deux pour cet échange. Et puis de notre côté, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode avec une autre enseigne d'un autre secteur. Et en attendant, tous nos podcasts sont à retrouver sur la plateforme CDI Podcast et bien sûr toutes les plateformes de streaming. À bientôt.
Réseau à la une.
Réseau à la une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.